Je ne sais pas si, à défaut de connaître le transsibérien, le Talbot, le Trans-Europe Express, est-ce que vous connaissez la gare d'Édimbourg? C'est une soirée un peu gare, comme ça. C'est un éclairage un peu gare d'Édimbourg, comme ça. Non? Pardon? Bah, oui, enfin, c'est... Non, personne... Non, parce qu'elle a été refaite. Est-ce que vous connaissez la gare de Lille-Europe?
Oui.
Ah, vos impressions?
Froide,
courant d'air. Bon, ben voilà, vous êtes à Édimbourg. Vous voyez le genre? Le vert, la transparence, la luminosité, le néon. Oui, mais alors à Édimbourg, oh, si je veux vous emmener à Édimbourg, c'est d'abord parce que à Londres, les villes ne sont pas amies, hein. Mais il y a là quand même à Londres un manuscrit que la ville d'Édimbourg souhaite récupérer. Ce manuscrit est dans la grande bibliothèque qui est à côté de la gare de St Pancras à Londres. Ça, vous connaissez, non? C'est la plus belle gare européenne, St Pancras. Peut-être comparable aux gares indiennes, celles de Bombay ou Delhi. Non, mais enfin, vous avez l'avenir devant vous, allez-y. Parce que Vendôme, Paris, Paris, Londres, c'est...
C'est à côté, quoi.
Oui. Je vous mets au défi d'y arriver. Pardon?
On va partir tout de suite.
Je sens là des... Bon, alors, pour revenir à St Pancras, à la bibliothèque de Londres où se tient ce manuscrit. Alors là, je préviens tout de suite, vous allez être déçus. Ce manuscrit est en fait une très mauvaise traduction des Mille et Une Nuits. C'est l'écrivain Borges qui l'affirme, faut-il le croire. C'est pas pourquoi il avait une aversion pour la traduction de Burton. Il faudrait demander à Pascal Quéré s'il a tenu compte de la traduction anglaise des Mille et Une Nuits dans sa classe. Parce que Borges est allergique à Burton. Or, le manuscrit existe donc à la Grande Bibliothèque à Londres. Et à Édimbourg, on aimerait avoir le manuscrit. Je vais vous dire pourquoi. Au début du siècle, il y avait égaré à Londres deux Écossais amoureux des Mille et Une Nuits et qui s'étaient rencontrés à cause de ce manuscrit qui n'était pas encore installé dans cette nouvelle bibliothèque, qui n'existait pas au début du siècle. Mais ces deux hommes-là, on connaît leur nom. L'un était cordonnier d'Édimbourg. Il s'appelait Mr. Hare, Monsieur Lièvre. Vous voyez qu'en français, la traduction passe très mal. Mr. Hare, c'est quand même beaucoup plus beau. Et il avait un compagnon de lecture qui s'appelait Mr. Burke. Et alors ça, la traduction est à voir, à entendre, à envisager. Il n'était pas du tout cordonnier, mais jardinier, Burke. Mais amoureux fou des Mille et Une Nuits comme Hare. Et les deux s'étaient rencontrés à cause du manuscrit. Et heureusement pour les deux, l'un se prenait pour le calife, Haroun al-Rachid. Est-ce que vous saviez que Haroun al-Rachid était ami de Charlemagne? Non?
Non, non.
C'est grâce au calife Haroun al-Rachid qu'à Aix-la-Chapelle, la cathédrale a été construite pour Charlemagne. Ils étaient très liés, les deux. Bon, mais ça, Mr. Hare et Mr. Burke le savaient. Hare se prenait pour le calife, en personne. Ça tombait bien puisque Burke acceptait de jouer Jafar. Simple vizir, mais indispensable vizir. Là, vous y êtes, hein, un terrain connu. On vous dit le calife, Jafar, tout ça, vous avez entendu, hein? Donc, vous connaissez la manie des deux hommes. Ou bien, faut la rappeler. Faut vous rappeler beaucoup de choses ce soir. Hein? En tout cas, Herbert, tel Haroun al-Rashid et Jafar, aimaient dans les rues d'Édimbourg, comme dans celles de Londres, aller déguiser, écouter, aux portes, dans les pubs, dans les rues sombres, dans les jardins, par nuit profonde. Herbert, à la manière de Jafar et du grand calife Haroun al-Rashid, il glanait ainsi des vies, des récits de vie. Mais je vais vous décevoir encore, car Hare et Berk sont connus dans l'histoire écossaise pour avoir été deux insatiables écouteurs écossais assassins. Ayant découvert le manuscrit à Londres, il l'aurait dérobé pour le transporter à Édimbourg. Ce manuscrit a été retrouvé dans l'appartement de Mr. Burke. Mr. Burke, qui habitait non loin de la gare. Petit meublé d'où mon bras levé, 6e étage, de l'autre côté de la gare. Pas encore refaite, pas encore glaciale, pas de courant d'air, mais déjà des passages souterrains, de la brique, rien que de la brique. Mais des correspondances, des souterrains. Et donc le manuscrit est chez Berk. Il n'est pas un soir où Herr n'emprunte le passage souterrain qui lui permet d'accéder directement à l'immeuble de Monsieur Berk. 6e étage est là, ensemble, tel Jafar et Haroun al-Rashid. Il rapporte ce qu'ils ont entendu. Mais ça ne suffit pas. Non. Un soir, il décide d'emmener dans le meublé de M. Berk un ou une qui raconterait dans le meublé, en attendant le train, car il faut dire que les trains écossais sont en retard, ça vous le savez. On ne peut pas compter sur l'exactitude des trains écossais. Voilà pourquoi Herr et Berk, profitant de la proximité du meublé, et profitant du retard des trains, errait dans la salle d'attente de la gare d'Édimbourg. Est-ce que vous suivez ou bien...
Oui,
ça va encore. Donc imaginez la salle d'attente. Une sorte de salle comme ici, à peu près autant de monde qu'ici, dans la salle d'attente. Et Herbert inspecte les visages, ils cherchent, ils choisissent. Et ils invitent un voyageur à emprunter le passage souterrain pour se rendre au 6e étage. Et le rituel est le suivant. Installez le voyageur sur l'unique canapé, non loin du guéridon où il y a 3 verres, une bouteille de whisky écossais. 2 petits tabourets, l'un pour Herr, l'autre pour Berk. En général, c'est Berk qui sert le whisky et qui le resserre. Et le voyageur se sent en confiance. Et là, il est invité par Herr et Berk à raconter l'événement le plus extraordinaire de sa vie, l'événement le plus marquant. Il a tout le temps pour y penser. Le whisky faisant effet, le voyageur raconte. Et les deux insatiables écossais . Mais le rituel est toujours le même. Avant que le jour ne soit levé, c'est Berk, le plus léger des deux, qui saute derrière le canapé. Il applique ses mains sur la poche du compteur. Et aussitôt, Herr s'installe sur l'estomac du voyageur. Plus aucun souffle de vie. Et le rituel est toujours le même. Le corps doit rester tiède. Non loin du canapé, un coffre. Vide ! Pour accueillir le corps tiède. Herr et Berk, avant que le jour ne soit levé, descendent le coffre, empruntent un autre passage souterrain qui les amène de l'autre côté de la gare d'Édimbourg. Faculté de médecine. Et là, début du siècle, en Écosse, l'anatomie est une science difficile. Il n'y a pas de corps à disséquer. C'est interdit. La médecine est en retard. Faute de corps. Mais grâce à Herberg et grâce au professeur Knox, qui est leur complice à la faculté de médecine, lorsque le corps arrive dans le coffre, corps encore tiède, le professeur Knox se saisit du corps. Derrière les murs de briques de la faculté de médecine, une leçon d'anatomie secrète. Grâce à Herberg, insatiables écouteurs écossais assassins, la médecine a pu progresser en Écosse. Voilà pourquoi, lorsqu'ils furent arrêtés des années plus tard, jugés, c'étaient deux vieillards qui n'avaient plus rien de Haroun al-Rachid et de Jafar. Non. C'étaient des hommes fatigués d'avoir entendu toujours et toujours les mêmes histoires. Et ils se laissèrent emmener, jetés en prison. Récemment, lorsqu'on installa une consigne à la gare d'Édimbourg, on découvrit des coffres scellés. On les ouvrit. Surprise. Le manuscrit, rapatrié à Londres, à la bibliothèque de St. Pancras. Ouvert à une certaine page, l'histoire préférée de Herbert.